Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 29 octobre 1987.
Nous sommes donc toujours devant ce passage important, puisque c'est de fait la naissance pour nous de cette interrogation: qu'est-ce que c'est que l'être? Passage de ce jugement d'existence, ceci est, à l'interrogation: qu'est-ce que c'est que l'être? En comprenant bien qu'il s'agit là d'un appétit profond d'intelligence qui ne peut pas se contenter de ce qu'elle reçoit dans cette alliance avec les sens, c'est-à-dire ce qu'elle reçoit dans l'expérience. C'est primordial, tout ce qu'elle reçoit dans l'expérience. Cette attitude de réceptivité qu'implique l'expérience. On s'ouvre à la réalité et on respecte ce qu'elle est dans le jugement d'existence. C'est ce respect très profond à l'égard de la réalité dans ce qu'elle a de plus elle-même. Ceci est. Mais l'intelligence veut aller plus loin et elle veut montrer son exigence propre par l'interrogation. Et c'est pour ça qu'elle abstrait. Une intelligence qui abstrait, c'est une intelligence qui, au point de départ, dans son exercice même, est liée aux sensations. Et une intelligence qui, dans son appétit propre, désire saisir ce qu'elle est seule capable de saisir. Et elle abstrait ce qu'elle est seule capable de saisir. Donc ce que les modernes appelleront thématiser. Il faut tout simplement comprendre ce que ça veut dire. On interroge pour mettre en pleine lumière le bien de l'intelligence. Ce qui est son bien propre. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors que dans le jugement, dans l'expérience, l'être est saisi à l'intérieur du ceci. Par l'interrogation, l'être est séparé. Il est mis en pleine lumière. Entre l'expérience et l'interrogation, vous pouvez situer l'intuition, je mets entre guillemets, ce que Maritain appelle l'intuition de l'être. En réalité, ce n'est pas l'intuition de l'être. On n'a pas d'intuition de l'être. Puisque s'il y avait une intuition, on n'interrogerait pas. Quand vous avez une intuition, vous n'interrogez pas, vous êtes suspendu. Vous regardez et vous saisissez. En réalité, c'est beaucoup plus cette intuition de la diversité et de l'unité, ce que j'ai souligné, qui éveille en nous l'admiration, l'étonnement, d'où naît qu'est-ce que l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être. Quand je suis en présence de cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, il faut que je puisse répondre. Si, de fait, je considère que la signification de l'abstrait ne correspond pas à la signification du concret, je ne peux pas répondre en revenant à l'expérience. Je me coupe de l'expérience et je m'enferme dans la vie même de mon intelligence. Et c'est l'intelligence qui, dans sa réflexion sur elle-même, doit pouvoir répondre. Vous voyez, comme c'est intéressant de voir comment peut naître la dialectique. Parce que je crois que c'est là où on comprend comment peut naître la dialectique. La dialectique platonicienne, c'est très net. Parce que Platon est très clair comparativement à Hegel. C'est plus facile de comprendre Platon que Hegel. Eh bien, quand vous regardez la dialectique platonicienne, vous voyez qu'elle naît à partir de là. C'est que seule l'intelligence peut répondre à l'interrogation de l'intelligence. Je sépare l'être de l'expérience. C'est mon intelligence qui l'a séparé. C'est mon intelligence qui a donné à ce moment-là à l'être une nouvelle signification. Et c'est donc l'intelligence qui doit répondre elle-même à cela. C'est pour ça que Heidegger s'enferme dans penser l'être. Si au contraire, alors c'est la position que nous essayons de comprendre et de justifier, si au contraire, ce que l'intelligence abstrait, l'intelligence le fait en respectant l'expérience qu'elle a. C'est-à-dire que la signification de ce qui est abstrait est la même que la signification de ce qui est concret. Et nous avons là les exemples donnés par notre langage. Vous voyez, ce qui est très important, c'est qu'au fond, la dialectique ne correspond plus du tout au langage. Tandis qu'une philosophie réaliste tient compte du langage, non pas du tout comme ce qui va justifier, mais comme une donnée. Le langage est une donnée. C'est très ennuyeux de faire une philosophie qui soit en contradiction avec le langage. C'est très ennuyeux une philosophie qui ne regarde que le langage. Vous voyez, les deux extrêmes. C'est très curieux. Parce que considérer que la notion d'abst que quand l'intelligence abstrait ce qu'elle atteint dans ce qu'elle abstrait ne correspond plus au concret, ça va directement contre le langage qui exprime normalement notre vie intellectuelle. Je prends les exemples tout simplement blanc-blancheur. Vous ne pouvez pas nier, ça, alors c'est l'expérience courante, que la blancheur, c'est tout simplement ce par quoi le blanc est blanc. Regardez les définitions des dictionnaires qui sont toujours naïves et qui, à ce point de vue-là, sont très intéressantes. Cherchez qu'est-ce que c'est que blancheur dans le dictionnaire? Ce par quoi le blanc est blanc. Alors réfléchissez un instant sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce par quoi le blanc est blanc. Ça veut dire que blancheur exprime la forme de ce qui est blanc, ce par quoi le blanc est blanc. Donc c'est bien la forme de ce qui est blanc. Et donc la signification de la blancheur, c'est tout simplement la signification de ce qui est blanc, mais pris d'une façon absolue. Voyez l'induction. Vous avez, à partir de tous les blancs, saisi le principe. C'est-à-dire, là, la forme. C'est la première induction. Le blanc du mur, le blanc, et ainsi de suite. Ce par quoi le blanc est blanc. Alors, quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Ce par quoi ce qui est est. C'est très simple. Je crois que vous l'avez tous. Et là, le langage nous le montre. On doit se servir toujours du langage. Le langage, c'est quand même ce que nous avons élaboré au milieu de notre connaissance. Et le langage n'est pas en contradiction avec notre connaissance. Le langage exprime ce que nous pensons. Du moins, ce que je crois. Le langage exprime ce que nous pensons. Si le langage n'exprime pas ce que nous pensons, alors nous sommes complètement coupés les uns des autres. Pas la peine de parler. Si en vous disant ça, je n'exprime pas ce que je pense, c'est mais mon père, inutile de parler, taisez-vous, c'est tout. On ne peut pas communiquer. Tandis que si mon langage exprime ce que je pense, alors oui, très bien, on s'en sert comme d'un véhicule qui exprime et qui permet qu'on soit reliés les uns avec les autres. Or, dans le langage, c'est net, prenez l'exemple de la blancheur, et prenez l'exemple, qu'est-ce que c'est que l'être? qu'est-ce que c'est que l'être, ce par quoi, ce qui est. Là, mettez en nota bene, c'est toujours pour essayer de bien voir et de comprendre ce que dit saint Thomas. Saint Thomas, lorsqu'il parle de laisser, vous traduisez être, vous traduisez exister. Je crois qu'on peut traduire les deux. Je sais bien que les puristes, thomistes comme Fabreau, n'aiment pas ça. Ils disent qu'il ne faut surtout pas traduire par exister. Je crois que c'est un purisme. Je crois que essayer exprime bien exister. Eh bien, exprime l'être. L'être qui est. Eh bien, saint Thomas dit essayer ce par quoi. Ce par quoi, ce qui est. Ce par quoi ce qui est, vous voyez bien que c'est le principe, ça. Pour comprendre ce qui est, regardez l'essai. Ce par quoi ce qui est. Donc, la signification de essai, c'est la signification de ce qui est. Il n'y a pas une nouvelle signification. Autrement, vous ne pourriez pas dire que l'essai, c'est ce par quoi ce qui est. Et vous le dites spontanément, dès que vous comprenez la différence entre concret et abstrait. Alors, je vous demande de réfléchir sur blancheur, c'est beaucoup plus facile que sur l'être. Parce que blancheur, vous comprenez tout de suite ce que c'est. Vous pouvez prendre aussi tous les autres mots abstraits. Je prends blancheur parce que c'est particulièrement blanc. Alors, ça va mieux. N'est-ce pas ? Ce par quoi le blanc est blanc. Alors, si ceci est juste, si je comprends bien que l'abstrait n'est pas autre chose que la mise en valeur, la mise en lumière, la manifestation de la forme à l'état pur, la signification de l'abstrait et du concret est la même. La seule différence, c'est que l'abstrait met en pleine lumière cette forme. Donc c'est du côté de la manière d'expression et la manière de signifier qu'il y a une différence. Mais la signification est la même. Alors vous voyez, ça c'est très intéressant au point de vue critique. Parce que ça nous fait comprendre que l'intelligence est capable de se critiquer elle-même. Et de comprendre que ce qu'elle saisit du réel, elle peut l'exprimer de deux manières différentes. Si elle peut l'exprimer de deux manières différentes, elle pourrait l'exprimer d'une troisième manière et d'une quatrième manière. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas d'art. C'est curieux. L'art repose sur la distinction de l'abstrait et du concret, fondamentalement. Parce que par l'abstrait, l'intelligence possède quelque chose, alors que dans l'expérience, elle constate. Quand je dis blancheur, mon intelligence assimile quelque chose, elle le possède. Tandis qu'au contraire, elle constate ceci est blanc. Et si elle possède cela, la signification du blanc, elle pourra l'exprimer de diverses manières. Vous voyez, comme c'est curieux. C'est pour ça que c'est si important, j'insiste, parce que là, je crois que c'est capital, tout vient de là, et toutes les erreurs constantes au point de vue philosophique, et la naissance de l'idéalisme vient de là. La naissance de l'idéalisme, c'est lorsque vous n'avez pas accepté que l'intelligence, partant de l'expérience abstraite, pour posséder, l'intelligence est très possessive, vous savez, hein. Oh là là, il suffit de regarder les intellectuels comme ils sont possessifs. C'est très possessif, l'intelligence. Or, elle abstrait pour posséder, pour comprendre, c'est bien évident, mais elle possède, en comprenant. Tandis que quand vous dites, le mur est blanc, mais vous ne possédez rien du tout, vous constatez. Quand vous dites, ceci est, vous constatez. Vous allez un peu plus loin, mais vous constatez. D'atour, il y a. Et en même temps, vous saisissez à l'intérieur de la réalité autre que vous quelque chose. Ceci existe. Et quand vous dites ceci existe, vous ne dites pas je l'ai dans ma poche. Pas du tout. Ça existe en dehors de moi, en dehors de mon intelligence. C'est ça que vous voulez dire. Tandis que quand vous prenez le mode abstrait, ce qui est abstrait n'existe que dans votre intelligence. Ah. Alors voyez, comme à ce moment-là, la grande tentation, c'est de dire je le possède. Le mode abstrait n'existe que dans votre intelligence. La blancheur, vous ne l'avez jamais expérimentée. L'être, vous ne l'avez jamais expérimenté. Le mode abstrait n'existe que dans votre intelligence. Si le mode abstrait n'existe que dans votre intelligence, vous voyez qu'il n'y a qu'un pas à faire. Si vous n'êtes pas très attentif, vous prenez, mais oui, tout ce qui est abstrait, je le possède. Et donc la signification de ce qui est abstrait, la signification de ce qui est abstrait, je la possède. Et seule mon intelligence pourra y répondre. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la forme que vous possédez, mais c'est la manière dont vous l'exprimez. Ce que vous possédez, au sens strict, au point de vue de l'intelligence, c'est l'universel, c'est le mode abstrait, mais ce n'est pas la réalité que vous connaissez. La blancheur, quand vous dites blancheur, mais vous ne possédez pas la blancheur, puisque moi aussi je la possède, en le disant en même temps que vous, donc vous ne la possédez pas. Mais votre mode abstrait, oui, ça c'est votre intelligence qui possède ça. Donc vous voyez, ce mode abstrait qui vient, qui est de fait le fruit d'une induction, ce mode abstrait, vous le possédez, mais vous ne possédez pas la signification de la réalité qui est exprimée de façon abstraite. Puisque vous pouvez dire blancheur, et moi aussi je peux dire blancheur. Et vous n'allez pas me dire, la blancheur ça m'appartient. Mais non. Au nom de quoi la blancheur vous appartient? Moi je vois le mur blanc, vous aussi vous voyez le mur blanc. Je me souviens, c'était une discussion que j'avais avec des psychanalystes. C'était pas commode de leur montrer l'objectivité de l'intelligence. Les faire sortir des freudiens. Les faire sortir de la subjectivité de l'intelligence. Ils sont tellement pris par la subjectivité. Comme ces discussions étaient très très difficiles, et que j'étais en Suisse à ce moment-là, on avait choisi un lieu particulièrement beau. C'est plus reposant de faire de la philosophie dans un beau lieu. On était dans le bois, dans un bois. Tout d'un coup, il y a un petit écureuil qui s'approche. Alors à ce moment-là, tous, nous nous arrêtons de parler. Puis on regarde l'écureuil. C'était juste au moment où on commençait à essayer de saisir l'objectivité de la connaissance. Alors, je laisse exprès le grand moment de silence de regarder l'écureuil. Puis quand l'écureuil s'en va, je dis, qu'est-ce que vous avez vu? Mais un écureuil. Mais c'est curieux, moi aussi. Et vous venez de dire que votre connaissance est subjective. Quoi, quoi? Vous divaguez. Ah oui, mais ça, c'est la connaissance ordinaire. Ben oui, mais la connaissance extraordinaire, elle est encore ordinaire. L'objectivité de la connaissance. Revenons à ces choses très simples. Ceci est. L'écureuil, il existe. J'ai vu un écureuil. Et vous étiez à côté de moi. Et vous aussi, vous l'avez vu. C'est curieux. Comment ça se fait? C'est parce que justement, dans l'idéalisme, on croit qu'on possède. Dans le réalisme, on accepte qu'on ne possède pas le réel. Vous voyez la pauvreté de la connaissance réaliste. On respecte le réel. Et on ne le possède pas. Et pour ça, il faut faire l'expérience à plusieurs. Et là, on est bien obligé de reconnaître qu'on ne le possède pas. Vous voyez, quand je dis l'être, on croit qu'on le possède. Heidegger est persuadé que depuis Parménide, il seul a possédé l'être. Et ça, je dis, c'est vrai. Penser l'être. Mais non, depuis Parménide, il y a des quantités de gens qui ont pensé l'être. C'est pas Heidegger. C'est pour ça qu'il parle de l'oubli de l'être, oui. On a tous oublié, sauf Heidegger. C'est terrible, hein, comme orgueil de l'intelligence. Et l'orgueil de l'intelligence, il est là. C'est quand on confond le mode abstrait de ce qui est connu avec la signification de ce qui est connu. Alors on croit qu'on possède ce qu'on abstrait. Alors qu'on ne le possède pas du tout. Mais on possède le mode abstrait. Ça c'est vrai, le mode abstrait vient de nous. L'universel, ça vient de nous. Vous n'avez jamais vu l'universel se promener. Vous avez vu un écureuil. Ce petit écureuil, magnifique. Ce petit écureuil existant. C'est celui-là que vous avez vu. Mais vous n'avez jamais vu l'essence de l'écureuil. L'écureuil en soi. Il y a Platon qui a vu l'écureuil en soi. Moi, je ne l'ai jamais vu. Et tous les idéalistes voient l'écureuil en soi. Parce qu'ils voient la blancheur. Alors que ben non, la signification de la blancheur vient de ce qui est blanc. Alors, au point de vue de l'être, oui, c'est la même chose. C'est ça qui est capital. Parce que l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Si la signification de l'être est distincte du jugement d'existence, vous vous enfermez dans la pensée dialectique. Si au contraire, vous reconnaissez tout simplement, d'après l'expérience habituelle, que ce que vous avez abstrait, vous l'avez abstrait pour mieux le regarder, pour mieux l'isoler, pour mieux connaître sa signification, mais vous reconnaissez que la signification de ce qui est abstrait est la même que celle du concret, il n'y a qu'une manière différente de l'exprimer. D'un côté, vous l'avez isolé, et de l'autre côté, vous le saisissez dans le concret. Alors, à ce moment-là, pour répondre à qu'est-ce que c'est que l'être, vous revenez à l'expérience. Ça, j'espère que vous comprenez. Si vous revenez à l'expérience, vous devez dire, je prends toujours l'exemple du blanc, vous devez dire, plus mon expérience sera riche, plus ma signification de l'être sera étendue et profonde. Prenez l'exemple de la blancheur. Si vous n'avez qu'une seule expérience, la blancheur du mur, votre blanc sera assez pauvre dans sa signification. Il ne regardera que le mur. Si à côté du mur, vous voyez la blancheur de cette table, quand elle est bien propre, elle est blanche. Vous voyez la blancheur d'un visage, vous voyez la blancheur de toutes les autres blancheurs. Chaque fois que vous avez une expérience nouvelle de la blancheur, de la neige, d'un paysage de neige, avec le soleil dessus. C'est éclatant, cette blancheur. Alors, est-ce que l'éclat fait partie de la blancheur? Vous voyez, la blancheur s'enrichit selon toutes les expériences que vous avez. C'est la même chose pour l'être. Quand vous posez qu'est-ce que c'est que l'être, vous revenez à l'expérience. Alors, vous voyez, c'est là où vous allez me dire, ben alors, je ne pourrai jamais répondre qu'est-ce que c'est que l'être, parce que je n'aurai jamais devant moi l'expérience de tous les êtres. Il y a des crapauds qui existent. Alors, je devrais faire ma métaphysique à partir du crapaud. Je devrais faire ma métaphysique à partir de la petite souris. Je devrais faire la métaphysique à partir du pou. Toutes les réalités qui existent, et chaque fois, parce que le pou existe d'une autre manière que le crapaud. Alors mon exister, je fais donc ma philosophie en fonction de l'expérience que j'ai. Si j'ai très peu d'expérience, pas grand-chose. Est-ce que c'est tout à fait juste? Alors voyez, c'est là on dit, attention, la signification ne correspond pas à la multiplicité des expériences. Ça, c'est du côté de l'extension. L'extension, c'est très matériel. qui est matérielle, c'est la compréhension. Comprendre en profondeur, intus legere, lire de l'intérieur, saisir profondément. Donc, parmi tous les êtres, lequel est le plus parfait? L'homme. J'ai jamais rencontré un être plus parfait que l'homme. Dans son existé. L'existé de la vache est quand même moins parfait que l'existé de l'homme. Il est plus matériel, l'existé de la vache. Une fois que vous avez compris qu'elle ruminait, qu'elle avait deux estomacs, vous avez compris toute l'originalité de la vache. Et surtout quand vous prenez son lait. L'homme, c'est l'expérience la plus parfaite de toutes les réalités qui existent. Donc, je n'ai qu'à regarder l'homme. Mais l'homme, dans toute sa multiplicité, dans toute sa variété, parce que c'est ça qui m'intéresse. Alors, vous voyez, ici, je reviens tout de suite à cette chose primordiale. Les prédicaments, les catégories. Qu'est-ce que me donnent les catégories? Les catégories me donnent toutes les modalités de l'être de l'homme. Pas de la vache. Vous ne pouvez pas faire les 10 catégories avec la vache. C'est une très belle question. Combien la vache a-t-elle de catégories d'être? Vous comprendrez mieux ce que c'est que les catégories d'Aristote une fois que vous comparez les deux. Alors, je reprends ici les catégories. C'est présupposé connu, ça fait partie de la propédeutique. Il faut connaître les catégories. Mais je crois que c'est très important, vous voyez, quand je reviens à l'expérience, je reviens aux 10 catégories. Pour connaître ce que c'est que l'être, je ne découvre pas les catégories, c'est présupposé connu. Alors, autre question. D'où viennent les catégories? Comment je connais les catégories? Vous voyez? Ici, je me sers des catégories. Alors, je vous donne la table des catégories. Il faut y savoir par cœur, ça. Substance première. Substance seconde. Voilà, les catégories reposent là-dessus. Substance première, pierre. André, Jacques, Pierre, c'est en grec le to deti, c'est-à-dire le ceci. Ah, c'est intéressant, le ceci, c'est ça la substance première. Ceci est. Alors le ceci, ça peut être Pierre, puisque c'est l'homme. Ça peut être Jacques, si vous aimez mieux. Ça peut être Arthur. Ça peut être n'importe quel nom, hein, je pourrais prendre le nom de chacun d'entre vous. Alors, le ceci. En seconde, c'est quoi? Pierre est un homme. Pierre est un homme. Homme. Pierre, vous pourriez dire aussi, est un animal par moment. Quand il mange, fonction animale. Quand il dort. Quand il rue, fonction animale. Bon, homme, animal. Qu'est-ce que vous avez ensuite? La quantité. C'est vrai. Pierre implique la quantité. Il pèse tant. Il a telle taille. Il a telle rondeur. La qualité. Parce qu'il y a des pierres qui sont des petits tonneaux. On les fait rouler. La qualité. Pierre aussi a des qualités. Il est intelligent. Intelligent, c'est une qualité. Il a beaucoup de cœur. C'est une qualité. Mais vous pouvez prendre aussi d'autres qualités. Il a des yeux. Oh là là. Des yeux bleus. Ou des yeux noirs, hein, ça dépend, il y a le bleu et le noir. Parce qu'il y a le nord et le sud, dans tous les pays, il y a le bleu et le noir. Les deux extrêmes, les qualités, toutes les qualités. Puis, la relation. Pierre est en relation avec des quantités de personnes. Ensuite, vous avez l'action, la passion. Pierre est capable d'agir. Pierre est capable de pâtir. Dans la vie commune, je vois qu'il pâtit. Et je m'exerce à le faire pâtir pour voir jusqu'où il ira. Pour voir à quel moment il va se mettre en colère. Hein? Il y a des gens comme ça qui ont un sadisme. Hein? On va voir jusqu'où il va résister. Chaque jour, j'enfonce davantage le clou. Action et passion. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le temps. Le lieu. Le situs. L'habitus. Je crois qu'ils sont 10. Hein. On va les compter. 1, 2. Voilà. Bon, il faut connaître tout ça. Les 10 prédicaments, il faut les connaître. Les 10 catégories d'Aristote. Oui, comme c'est intéressant. Parce que ça vous donne toutes les modalités de ce qui est par rapport à l'homme. Alors, l'habitus, c'est le fourre-tout. C'est le fourre-tout, l'habitus. Faut bien terminer par un fourre-tout. C'est pour ça que c'est le 10e. C'est le dernier. Alors, toutes les modalités, cherchez, vous n'en trouverez pas d'autres. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez comme ça simplifie. Aristote a fait cet inventaire. L'inventaire. On fait un inventaire. Vous savez, sur la carte de visite, la carte d'identité. Une bonne carte d'identité, si j'étais président de la République, je ferais une carte d'identité à la manière d'Aristote, les 10 médicaments. C'est beaucoup mieux que la carte d'identité habituelle. C'est bien plus riche. Vous avez le nom. Vous avez ce qu'il est. Vous avez la quantité. Vous avez la qualité. Alors, il y avait des pages. La relation, l'action, la passion. Vous retrouverez tout de suite les voleurs. Le temps, le lieu, situs. Situs, voyez, c'est le situs. Il y en a qui sont au premier rang. Il y en a qui sont au dernier rang. Ça, c'est le situs par rapport au tout. Nous sommes tous dans le même lieu. Hein, on est tous dans le même lieu. Dans la même salle. Mais dans cette même salle, on peut être aux différents coins. On peut être au centre. Oui, donc, le situs, c'est à l'intérieur d'un lieu, la place par rapport à un tout. Et l'habitus, ah, ça, c'est beaucoup plus particulier, l'habitus. L'habitus, c'est votre manière d'utiliser tous votre avoir. Votre premier avoir, c'est quoi? C'est votre habit. L'habit est un avoir. Eh bien, c'est très curieux. Il y a une relation qui s'établit entre votre habit et vous. La preuve, c'est quand toutes les chapes sont mises à côté, on arrive à retrouver la sienne. Simplement en la touchant. Il vaut mieux la voir. Mais c'est curieux. Il y a quelque chose. Vous voyez, la voix, la pipe. C'est un avoir. Le crayon. L'outil. Un menuisier, il a ses outils. Il dit bien, ce sont mes outils. Ils se sont usés dans le travail. Et je me suis usé avec eux. Et il y a une espèce de marque qui se fait. L'habit nous marque. Les chaussures nous marquent. Nos pieds sont développés différemment parce qu'on a mis telle chaussure. Et c'est vrai. Si vous n'étiez pas de chaussures, vos pieds grandiraient. Vous avez des pieds bien plus libres, soit. Alors, quand on se met pieds nus, hein, déjà quand on a 20 ans, on ne grandit plus beaucoup. Sauf ceux qui continuent de grandir. Alors, gare aux pieds qui grandissent. Parce que c'est les chaussures, l'habit modifie l'être. Modifie l'être, ça modifie. C'est l'habitus. Il y a un mode particulier qui se fait entre celui qui porte l'habit et l'habit. Une modification. Avec l'outil, c'est très net. Il y a une modification entre les deux qui se font. Alors, vous voyez, c'est ça l'habitus. Et ça, c'est propre à l'homme. Parce que les animaux ne portent pas d'habit, sauf les petits chiens de luxe. Mais c'est pas à cause de ça qu'ils ont un habitus. Ils n'ont pas d'habitus à cause de ça, parce qu'ils ne savent pas en user. C'est le propriétaire qui l'habille. Vous n'avez jamais vu un chien s'habiller. Donc, ils n'usent pas de l'habit. L'habitus implique l'usage. Et vous voyez, le droit de propriété, il est lié à l'usage. Il fait partie de l'habitus. C'est pour ça qu'on dit habitus, habere, avoir. C'est tout ce que vous avez. C'est tout votre avoir. C'est toute l'extension. Seul l'homme a un droit de propriété. L'animal n'a pas de propriété. L'animal est essentiellement relatif à son maître. Tandis qu'au contraire, l'homme, il est un pivot à l'égard d'une quantité de relations d'avoir. C'est ça l'habitus. C'est pour ça que c'est très riche, ça. C'est le dernier. Mais vous voyez qu'au point de vue de l'être, c'est très loin. Puisque c'est lié beaucoup plus. Le droit de propriété, qu'est-ce que ça représente au point de vue de l'être? Une relation. Une relation d'un type très particulier qui fait que c'est mon bien. Quand vous avez usé très longtemps d'un crayon, c'est votre crayon. Et c'est un drame si vous ne le retrouvez pas. Parce qu'avec un autre crayon, vous n'arrivez pas. C'est comme pour vos chaussures. N'est-ce pas? Il y a le bien commun, mais le bien commun, c'est pas l'habitus. C'est très important de voir la différence entre le bien commun et ce dont on use à votre usage particulier. Vous voyez? Et ça, c'est l'habitus. Donc il faut comprendre là. Une fois que vous avez compris que là, vous avez la table de toutes les manières différentes dont l'être se présente à moi par rapport à l'être humain. Quand vous posez la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», vous vous dites alors « l'être, c'est quoi ? Est-ce que l'être, c'est l'habitus ?» Non. L'être, dans l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», l'interrogation du TST, qu'est-ce que c'est que l'être? On veut savoir ce qu'il y a de premier dans l'être, ce qu'il y a de principal dans l'être, pas ce qui est secondaire. Or, vous voyez tout de suite, d'un seul trait, ça peut se faire d'une rapidité folle, c'est pour ça que c'est très intelligent la table des prédicaments, que c'est une propédeutique remarquablement intelligente. Qu'est-ce que vous voyez? Que tout de suite, tout ça, ce sont des accidents. C'est donc secondaire. Donc, d'un seul trait. Purification rapide. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'être? J'ai la table des... Vous pouvez pleurer sur le mur de Jérusalem, là-dessus, hein, sur tous ces accidents, parce qu'on est tellement attaché aux accidents. Et la métaphysique, c'est la purification des accidents. Hein. Quand vous posez « qu'est-ce que c'est que l'être ?», vous ne pouvez pas vous arrêter à quelque chose d'accidentel. Vous ne pouvez pas dire « l'être ?»« Ah, mais c'est la quantité !» Mais non, ce n'est pas la quantité. L'être, c'est bien plus la qualité que la quantité. Or, la qualité n'est pas la quantité. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'être, c'est la quantité. Vous ne pouvez pas dire que l'être, c'est la qualité. Parce que la qualité elle-même, elle n'est pas la quantité. Et des quantités de quantité présupposent la quantité. Donc vous ne pouvez pas vous arrêter, quand vous posez la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», vous ne pouvez pas vous arrêter à tous ces accidents. Parce que tous ces accidents expriment quelque chose de second. Et ça, vous l'expérimentez directement. Donc l'être, ça ne peut être que la substance. Alors est-ce que c'est la substance seconde, est-ce que c'est la substance première? C'est ce qu'on verra la fois prochaine.